VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 9h en temps universel. En RDC, arrestation de Bruno Tshibala, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, le concerné qui est aussi porte-parole du Rassemblement, une coalition d'opposants au troisième mandat du président Joseph Kabila, a été interpellé à l'aéroport de Kinshasa alors qu'il était en partance pour Bruxelles. Une source au sein de la magistrature contactée par l'AFP a fait savoir que son nom figure sur une liste d'une dizaine de dirigeants du Rassemblement transmise par le procureur général de la République au service aux frontières avec l'ordre d'arrêter ces personnes dans le cas où elles viendraient à quitter le territoire. En Côte d'Ivoire, poursuite cette semaine du débat à l'Assemblée nationale sur la révision de la constitution ivoirienne, Alassane Ouattara, le président, veut créer une troisième république, un nouveau test qui crée un poste de vice-président et un Sénat. Exit donc aussi la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle. L'opposition ivoirienne a dénoncé ce test. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale sous Laurent Gbagbo, est aujourd'hui président du parti leader.
Cette constitution est arrivée parce qu'à Marcoussi et la crise ivoirienne ayant éclaté, Ouattara et ses amis ont expliqué que cette constitution contenait les germes d'un conflit et que ces germes-là s'appelaient ivoirité, nationalité, foncier. Donc, on était en droit de s'attendre à ce que cette constitution corrige ces problèmes-là, ce qui n'est pas le cas. La situation actuelle est liée à l'agenda particulier de Ouattara. Il dit qu'il fait le référendum en fin octobre. La campagne électorale doit durer 2 semaines, donc à partir du 15 octobre, la campagne commence. Ouattara veut forcément ce texte maintenant, avant les législatives. Sa force, c'est qu'il va organiser les législatives sous l'autorité de cette constitution, ce qui lui permet de se donner un vice-président, ce qui lui permet de vendre des sièges du Sénat à des amis politiques.
L'opposant ivoirien Mamadou Koulibaly, le Conseil norvégien des réfugiés, NCNRC, accuse le Kenya de violer les lois internationales en procédant au rapatriement forcé en Somalie de milliers de résidents du camp de réfugiés Dadaab, le plus grand au monde. Le gouvernement kényan avait annoncé en mai sa volonté de procéder au démantèlement de ce camp, décrit par Nairobi comme un vivier du terrorisme islamiste qui frappe régulièrement le Kenya.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Donald Trump a lancé dimanche, au cours du deuxième débat télévisé, une salve d'attaque contre Hillary Clinton pour tenter de sauver sa campagne. Dans les cordes, après la divulgation de ses propos dégradants sur les femmes, lâchés par nombre de ténors républicains à moins d'un mois de l'élection présidentielle du 8 novembre, le candidat républicain a opté lors de ce débat tendu à Serbe pour un affrontement très personnel. La stratégie a-t-elle été payante? Écoutez la réaction de René Lec, il est administrateur du site cneplus.com.
Une heure avant le débat, la campagne de Donald Trump a présenté une vidéo qui montrait Donald Trump entouré de 4 accusatrices du président Clinton, dont une qui l'accusait de l'avoir violée, d'autres de les avoir agressées sexuellement, etc. Et donc il y a fait allusion effectivement au début du débat, mais je crois que la réponse d'Hillary Clinton était assez intéressante. Elle a paraphrasé Michelle Obama qui avait dit que quand l'adversaire réautorera des pâquerettes, il vaut mieux de son côté s'élever un peu et n'est pas allé très loin dans cet échange-là. Je crois que c'était sa stratégie. Mais au-delà de ça, je pense que tous les deux ont joué plutôt à mobiliser leur base. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que Donald Trump ait gagné une voix de plus. Au contraire, je crois que en tout cas au niveau du leadership du Parti républicain, qui attendait des excuses renforcées de la part de Donald Trump par rapport à cette question de la vidéo, ils ne l'ont pas obtenue. Et je crois que ça n'arrêtera pas l'hémorragie.
Régime syrien et rebelles s'affrontaient violemment à Alep après l'échec d'une nouvelle tentative diplomatique pour apaiser les souffrances de la population. Moscou ayant bloqué à l'ONU un test français sur l'arrêt des bombardements. Les raids ont permis aux troupes pro-régime de prendre le contrôle de Djandoul, un carrefour clé dans la ville, dans le nord de la ville, selon l'OSDH et le quotidien Al-Watan proche du pouvoir. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.